La paix publique et le bonheur d'un État sont en danger dès lors que les lois, les libertés et les coutumes établies par l'autorité légale sont ouvertement bafouées et transgressées. Déclaration au peuple d'Angleterre par le prince Guillaume d'Orange le 30 septembre 1688.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Lors de la dernière chronique des fenêtres de l'histoire, nous avions terminé avec la glorieuse révolution d'Angleterre qui établissait ou voulait établir un équilibre entre les élites du royaume et en particulier entre la représentation parlementaire et la monarchie. Tout au long du XVIIIe siècle, il va y avoir effectivement, progressivement, lentement, des fois avec difficulté, l'établissement d'un système parlementaire dans le royaume. D'abord, il faut dire que les circonstances ont aidé cette entreprise. En effet, en 1714, quand meurt sans héritier la reine Marie, eh bien, on va chercher comme souverain britannique des princes allemands, les électeurs de Hanovre. George Ier, puis George II, à partir de 1727, ne parle pas anglais. Il ne parle qu'allemand, ce qui fait qu'il ne participe pas véritablement à la vie publique, et en particulier, ils ne sont pas présents lors des conseils des ministres, des conseils de cabinet. Le premier roi d'Angleterre de la dynastie de Hanovre qui va véritablement parler l'anglais, c'est George III à partir de 1760. Autre élément qui joue en cette faveur, c'est la continuité d'un parlement qui joue de plus en plus son rôle. On a rétabli une chambre des lords et on élit les représentants de la chambre des communes. Mais il faut bien préciser tout de suite les conditions de l'élection. Au XVIIIe siècle, les députés des communes ne sont élus que par une toute petite élite, par un corps électoral extrêmement réduit. Il y a même des circonscriptions qu'on appelle les bourgs pourris, où vous n'avez que quelques dizaines, voire parfois qu'une quinzaine d'électeurs. Donc n'imaginons pas du tout un système bien sûr démocratique. Mais il y a tout de même un système de désignation à la Chambre des communes. Alors il peut y avoir, évidemment, quand vous avez un corps électoral aussi faible, des pressions, des corruptions. Et les élites anglaises sont d'ailleurs fort conscientes de cet élément. Il n'en reste pas moins vrai que se développe aux communes et à la Chambre des Lords une véritable vie politique. D'autre part, il y a une figure qui émerge, c'est la figure du Premier ministre. En effet, il y a un chef du gouvernement britannique qui va progressivement prendre sa place en jonction entre, d'une part, la couronne et, de l'autre part, le Parlement. D'autre part, ce qui va jouer aussi en faveur de cette institution, c'est qu'au travers de la figure de Horace Walpole, eh bien, il pourra rester au pouvoir une vingtaine d'années, ce qui donne une indéniable stabilité. Il est évident que George III a cherché par moments à jouer un rôle politique, mais progressivement, il s'est détaché de ce rôle. Oh, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a rencontré au sein des élites britanniques une certaine résistance, que je qualifierais de respectueuse, mais on lui a fait régulièrement comprendre qu'il n'était pas de son ressort d'imposer, par exemple, des levées de troupes ou des levées d'impôts nouveaux. Donc le Parlement a été appelé indéniablement, tout au long du XVIIIe siècle, à jouer un rôle de plus en plus important. D'autre part, lorsque le roi a même tenté contre un député particulièrement critique vis-à-vis de la politique menée par le souverain, le député Wilkes, qui avait été normalement arrêté sur ordre du roi, eh bien, il y avait eu véritablement une levée de boucliers à la Chambre des communes et dans ce qu'on appelle l'opinion publique contre cette décision royale. Et puis, un autre élément à jouer en faveur du Parlement, c'est que progressivement, George III a montré des signes de difficultés psychologiques. On a parlé de la folie du roi Georges, et indéniablement, alors qu'il a régné pendant 60 ans, donc un très long règne, eh bien, le dernier tiers du règne, il ne jouait plus du tout de rôle politique. Autre élément qu'il faut voir dans ce qu'on peut appeler la prépondérance anglaise au XVIIIe siècle et au début du XIXe, c'est le dynamisme économique du royaume. En effet, l'Angleterre connaît des transformations dans l'agriculture. Le pays se modernise, au détriment, c'est vrai, de la petite paysannerie. Mais en se modernisant, l'agriculture anglaise est indéniablement à la pointe du progrès. Sa population grandit. 1714, il y a à peu près 6 millions de sujets en Angleterre. On est à 9 millions en 1789. D'autre part, on voit également les progrès agronomiques. On voit à partir de 1760 des riches gentilshommes clôturer leurs champs, accaparer les communaux, les rendre de plus en plus productivistes. Parfois, c'est vrai, au détriment de la petite paysannerie. Il y a donc une concentration des terres qui va jouer en faveur d'un certain rendement. D'autre part, l'industrie anglaise commence à prendre une ampleur considérable grâce au commerce transatlantique. Les porcelaines d'Extrême-Orient, les mousselines, les cotonnades, qu'on appelait indiennes, viennent en Angleterre. Inversement, des textiles anglais arrivent en Amérique, y compris en Amérique latine, possession de la couronne d'Espagne. L'industrie textile profite de cet essor du commerce. Les Anglais travaillaient surtout la laine jusque-là. Eh bien, désormais, ils fabriquent des cotonnades dans la région de Manchester, de Liverpool. D'autre part, l'industrie métallurgique, elle aussi, connaît un développement considérable. Pour remplacer le bois, on employa de plus en plus la houille. La mise en exploitation des très riches gisements houillés d'Angleterre, d'Écosse, l'exportation même de la houille devient un des traits essentiels de ce qu'on a pu appeler la première révolution industrielle anglaise. Donc, il y a véritablement un symbole même de cette révolution, c'est l'Écossais Watt qui améliora la machine de Newcomen et qui mit au point, dans les années 1780, la machine à vapeur. Une Angleterre économique était en train de se développer. Restait un troisième point important, c'est le rôle international de la Grande-Bretagne. Le XVIIIe siècle voit effectivement le rôle international de la Grande-Bretagne se développer. Le royaume participe au grand conflit du siècle. D'abord la guerre de succession d'Espagne entre 1701 et 1714, puis la guerre de succession d'Autriche, où la Grande-Bretagne soutient Marie-Thérèse de Habsbourg, puis la guerre de Sept Ans, entre 1756 et 1763, et enfin, bien sûr, quasiment un quart de siècle de guerre contre la France révolutionnaire et napoléonienne. Il n'est pas question pour moi de rentrer dans le détail de ces conflits, mais d'essayer d'en tirer l'essentiel. Ce qui apparaît évident à la suite de ces guerres, c'est que l'Angleterre domine de plus en plus clairement les mers. La puissance britannique s'étale de la Méditerranée à l'Atlantique, en allant jusqu'à l'océan Indien et aborder le Pacifique. En effet, la marine britannique est la première du monde. Et l'Angleterre va d'ailleurs établir des points de passage obligés pour sa puissance maritime. Je pense à Gibraltar, qui est prise à l'Espagne en 1704 et qui va devenir un bastion de la Royal Navy. Je pense également aux confins du Canada, de l'Amérique, qui sont prises à la France, puisque le traité de Paris de 1763 fait que le Canada français passe à la couronne d'Angleterre, ainsi que les territoires que contrôlait la France dans les actuels États-Unis, la Louisiane par exemple. Et puis, ne pas oublier également qu'en Inde, les comptoirs français tombent dans l'escarcelle britannique en 1763. Certes, il y a la difficulté de la guerre d'indépendance américaine entre 1776 et 83, où les 13 colonies deviennent indépendantes. Mais si on se reporte en 1815, c'est-à-dire après la défaite finale de Napoléon, eh bien l'Angleterre occupe l'île de Malte, au cœur de la Méditerranée. Elle est très présente donc dans cette mer du sud de l'Europe. Elle occupe également la colonie ex-hollandaise du Cap, au sud de l'Afrique, qui devient une route importante entre l'océan Atlantique et l'océan Indien, et permet donc de remonter jusqu'à la présence britannique en Inde. Donc il y a effectivement, véritablement, une prépondérance de ce point de vue-là de l'Angleterre. Et puis il y a un deuxième élément qu'il faut souligner, c'est que l'Angleterre cherche, sur le plan international, à véritablement aboutir à un équilibre. Et elle ne veut pas qu'une puissance européenne soit trop puissante. Elle avait déjà combattu l'Espagne de Philippe II, elle avait finalement combattu au début du XVIIIe siècle la puissance de Louis XIV, eh bien elle va combattre avec la même ardeur la France révolutionnaire et napoléonienne, car elle ne voulait pas laisser véritablement l'Europe sous la domination française et sous la contrainte de l'empereur Napoléon. Je ne veux pas dire par là qu'elle est sans responsabilité dans les guerres menées à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Elle en a des responsabilités, mais son obsession de ne pas avoir une puissance dominante est indéniablement un des moteurs de sa politique. Il est donc clair qu'en 1815, quand le Congrès de Vienne redéfinit le cadre de l'Europe, l'Angleterre est à ce moment-là la première puissance du monde, et d'ailleurs, on devrait désormais dire obligatoirement la Grande-Bretagne, parce que depuis 1707, l'Écosse n'est plus un royaume indépendant, mais a été rattachée à la couronne d'Angleterre.